corporales son intervenciones muy puntuales que a veces, si no me equivoco, duran pues una unidad de tiempo muy corta. O como otros proyectos que hemos visto también, el último sobre el báculo de los inmigrantes, que es una diseminación dentro de la ciudad y dentro del paisaje humano y urbano de elementos muy discretos. Quizás empiezo con una pregunta para los tres, o para Alan quizás más directamente, que es cómo es posible resolver desde el punto de vista de la autoridad o de la reflexión sobre el arte público en Francia, este problema de temporalidad y permanencia que creo que lleva a situaciones quizás contradictorias con la propia intención del arte o de la comisión, o sea, de quien pide, de la autoridad que comisiona el arte.
Je crois que c'est une question très, très grave, mais qui met en cause le commanditaire. C'est la nature de la commande qui, à mon avis, est en cause dans la temporalité de l'œuvre. À savoir, lorsque le pouvoir, qui en 1983 était le pouvoir socialiste, il avait justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il était ambigu dans la mesure où, certes, il partait d'une générosité qui était de diffuser, sans bien savoir comment, sans bien savoir quoi, mais qui était de diffuser l'art contemporain et d'actualiser la culture qui, traditionnellement, était marginale. La culture de l'art contemporain est marginale depuis Manet, avec un développement de l'académisme qui est satisfait généralement qui était censé satisfaire le goût public, d'un côté le goût public et d'autre côté le style de l'art contemporain, le style moderne. Deux choses différentes. Le goût étant une chose qui recouvre les formes extérieures, censée satisfaire les apparences. Le style est au contraire une arme de définition d'une époque, de définition d'une appartenance particulière à l'histoire culturelle. Et il y a eu là, je crois, dans les années 80, une confusion de la part du pouvoir entre la diffusion de ce qu'il croyait être le style moderne et qu'il avait finalement transformé en goût public. Et il me semble que la question de la commande n'a pas été posée clairement, dans le sens où le commanditaire, qui était l'élu souvent inintéressé par l'art contemporain, sans intérêt pour la culture, comme je l'ai dit tout à l'heure, reproduit l'idée de la Renaissance, et donc de celui qui choisit. La seule différence avec les habitudes, c'est que le catalogue proposé par le ministère n'était plus le catalogue des sculpteurs traditionnel, mettait le catalogue des jeunes artistes, mais le processus de commande reste le même. Or, le rapport était réellement celui du prince et de l'artiste, avec une sorte de complicité. Pour la première fois depuis longtemps, le maire, l'élu, pouvait manger à la table de l'artiste. L'homme qu'il méprisait il y a encore 20 ans, 10 ans, était devenu le mage, l'homme qui est la lumière. Des fantaisies incroyables sur le mythe de l'artiste. Et cette complicité a flatté l'artiste, dans un premier temps, a flatté l'artiste. Et puis souvent, l'artiste s'est aperçu que cette flatterie reposait sur une inculture telle et une différence telle qu'au mieux, l'artiste arrivait à gagner un peu d'argent et de façon plus générale, au pire, l'œuvre commandée n'était pas réalisée et abandonnée. Avec beaucoup de mise en scène pour l'abandon de telle ou telle culture importante, et la plus connue, celle qui a traversé, je pense, les frontières de la France, c'est la plus grande sculpture du monde, qui aurait été l'œuvre de Jean-Pierre Reynaud au Minguette, qui se trouve aussi dans la région de Lyon, qui est un grand quartier, un grand ensemble. Qui était déserté par la population et il avait été question que Jean-Pierre Reynaud conserve une de ses tours de 13 étages et la recouvre de ses céramiques traditionnelles pour en faire une sorte de cénotaphe, une sorte de monument aux morts gigantesque, signifiant une sorte d'état de la culture à la fin du siècle. Bref, c'est l'abandon progressif. Pour ne pas prendre trop longtemps la parole, puisque c'est déjà un débat, je dirais quand même que la qualité de la réponse de l'artiste dépend de la qualité de la question. Il n'y a pas de réponse de l'artiste s'il n'y a pas au préalable un dialogue fondé sur une connaissance de l'un et de l'autre. Et que ça, c'est du temps. C'est pas un catalogue. Je cherche pas. Et la dernière exposition, et je vous dis, cet artiste m'intéresse et j'y vais. Non. Je crois que, comme je le dis tout à l'heure, un des phénomènes essentiels de la mégalopole, c'est que nous sommes immergés dans la même réalité. Nous avons de nombreuses difficultés dans la communication. Oui, il y a les télécommunications extraordinaires. Certes, c'est vrai que c'est elle qui détermine le nouveau rapport entre nous et qui modifie profondément le rapport entre le local et l'international. Il y a, en effet, grâce à la télécommunication, une simultanéité d'informations qui renverse complètement l'économie du dialogue. Mais paradoxalement, nous sommes aussi dans une époque où la communication est extrêmement limite entre deux êtres, entre deux hommes. Et entre l'artiste et le prince, il y a une incommunicabilité totale. Donc la question n'est pas de choisir un prince et de choisir un artiste avec un grand art. Je crois que la question, c'est de favoriser d'abord, la patience de la rencontre, une élaboration lente, précise, efficace, soutenue, et non pas débridée avec l'objectif d'avoir telle ou telle réponse immédiatement ou même dans 3 mois. Il est important que se constitue un dialogue, encore une fois, précis, avec une réalité sociale qui est extrêmement difficile d'accès. Je crois que pour le pouvoir, la crise du monde politique aujourd'hui et d'avoir certainement aucune représentation du public. Le public n'existe plus tel qu'il existait. Il est incroyablement diversifié, éclaté, brisé, multiple. Les rapports que décrivait Béatrice tout à l'heure entre le public et le privé démontrent bien comment justement ce qui était vrai hier est complètement faux aujourd'hui et qu'il est impossible, les exigences du monde aujourd'hui, les exigences individuelles de chacun d'entre nous, hyper informés, a complètement produit une sorte d'éclatement de ce que l'on a appelé pendant très longtemps la masse. La masse populaire n'existe plus en tant que telle. Elle est une masse hybride, complexe, d'une myriade, une multitude d'individus aux aspirations diverses.
Je crois qu'il y a estamos llegando a una situación en la que aparecen dos casos bastante, bastante diferentes de actuación o de presencia del artista en el espacio público y que es, por una parte, el caso de la comisión, el caso de que al artista se le pide o se le reclama para, digamos, jugar un cierto rol, un cierto papel en una situación determinada con un control o con unas reglas del juego muy particulares. La otra situación, que es también el caso muy significativa, es el hecho de que el artista decida en función de los intereses o de las preocupaciones dadas en ese momento de emplazar su obra en el espacio público. Creo que son el resultado, digamos, en términos abstractos, es el mismo. Tenemos una presencia en un espacio que no es el que tradicionalmente se le daba al arte. O sea, ya no estamos muy lejos de la galería o del museo, de los espacios o del salón o de la habitación del coleccionista. Estamos en un espacio de terriblemente expuesto y creo que es muy, vamos, es una situación que nos puede dar lugar a tener que tenemos que diferenciar. Supongo que a todo artista es le puede interesar pues, encontrar el príncipe o la petición pública, pero que no es tampoco la única situación en la que la obra puede darse en un lugar público. No sé si hay, tampoco quiero estar dominando esta. Sí.
Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Je crois qu'il y a une chose qui qui est absolument, j'essaie de comprendre la question pour avoir une réponse claire.
Je te fais la question.
Oui.
Tu dis que ça serait intéressant, que c'est important que l'artiste participe comme une observation citoyenne à la haine et la corruption, avec deux autres forcément comme même élément.
Oui, c'est absolument évident, enfin, je suis tout à fait de cet avis. Mais quel est, au sein de ces citoyens, au sein de cet espace civique, qui n'est pas un espace politique, l'espace civique, c'est justement cet espace de la parole publique. Il est évident que au sein de cet espace de parole publique, l'artiste est un élément qui peut être un élément fédérateur, un élément qui peut en même temps déterminer ce que disait, je crois, ce que j'ai bien compris, ce que disait Christophe tout à l'heure, l'étranger, l'artiste est toujours l'étranger. Et à ce titre-là, pourquoi est-il étranger? Parce que aussi bien sa formation que sa... La structure de l'art est précisément d'intervenir dans un endroit qu'on n'avait pas prévu. L'artiste amène de l'imprévisible, du non, de l'inattendu. Il arrive à des conclusions que la logique à laquelle la logique n'arrive pas. Il a cette capacité à résoudre en une forme symbolique les éléments qui en fait convergeaient sans avoir trouvé une forme qui puisse leur signifier quelque chose. Or, cette forme-là, certes, elle va participer dans une utopie à la constitution de cette société civique, mais également la forme de l'art a aussi quelque part une autonomie qui est justement la référence à une liberté fondamentale qui est précisément ce qui nous manque aujourd'hui. Et si il y a une sorte d'attirance indistincte, mais une attirance évidente entre la mégalopole d'aujourd'hui et l'appel à l'artiste, au poète, à celui qui vient d'ailleurs, sans mysticisme, hein, mais à celui qui est l'étranger, c'est probablement parce que cette société est à la fois aspirée en tout cas, elle est inquiète, elle est angoissée, et elle semble ne pas avoir de réponse en dehors d'elle-même, puisqu'elle a englobé la planète, que la nature est rendue écologique. Il semble que l'artiste est peut-être celui qui...
J'aimerais que cette réponse, cette question, soit répondue aussi par Christophe.
Oui.
It's complicated. Because I am a designer myself, and that's my not only education but also quite a long practice. And I will be the last person to place myself in a kind of romantic gestural fashion as a kind of contestating or resisting or acting against design. I consider some of my projects as design work, on conditions, however, that not everything that is designed or constructed in the city should be permanent or should be a continuity or should become a permanent structure that is simply waiting for changing circumstances to project, to absorb them and write a kind of screen or medium. It's possible to think of design different kind of design posed by architects, industrial designers, fashion designers, and artists together. And a city could actually be continuous laboratory or stage of the multiplicity of discourses in which both artists and designers could work together. And also those who are working in urban geography or in sociology or in political practice, activism, and so on. We don't have very good examples of this kind of activity, so I have difficulties to show some slides and so on. But I think that what I was proposing here was not simply to perpetuate the concept of an artist who is always on the margin, who is always a stranger. But I would think that artists, I can only understand artists as strangers ironically. I think we are not, we do not deserve to be really called properly strangers in front of those who cross many borders and who trespass both external and internal boundaries in the process of becoming. We will have to learn a lot from them. But I think it's possible that designers and artists and intellectuals, researchers and activists could work together, and the boundary between the permanent and temporary, interventional, and the kind of continuity and discontinuity will not be that clear.
Can I say something? This definition of the artist and that you were presenting here, I found very, very problematic. I mean, it was very much a mythical idea of this artist which would be in a position of above ordinary people with his ability to enter into the reality, to interact with reality in a special way that the authors cannot see. I found that truly problematic, and I found that interesting that was presented here quite interesting in as much as with this role that the institutions could be providing for artists to respond to 16 projects. I think the underlying question, the question underlying this point here is quite important. At what point and why is it assumed that the artist will be somehow producing at a certain point something above of all of those that were involved in that production? Isn't this the most conservative view that we can have to the artist today? I mean, under which guise can we assume...
You said megalomania in this megalopolis.
But the artist can do better than any other. In architecture, it's even more problematic, if you want. I was thinking about the difference between the United States and Spain. In a process in the last decades, there have been all these continuous public wars in France, but also in Barcelona for the Olympics, and in Sevilla, and now with Valdos Mill, and all these things. And it seems like there is a return in Europe to, you know, certain parts of Europe, to a system of patronage again. It seems like architecture needs now to be supported in this kind of renaissance way. Otherwise, there is no way to have it built. Now, that, of course, has produced some envies in the United States. You see in Spain, real architects, like all these famous people, are able to build well. Here, we cannot build a damn thing. And also, in terms of theory, there is all these groups lamenting the degradation of the physical environment, the horrors of the megalopolis, and of the... with very few exceptions. For example, there will be an extension in somebody like Rem Koolhaas, and that looked closely at Atlanta and say, well, in a way, you in a certain sense, you can say, well, this is horrifying, this is awful, this is the destruction of all the spaces of the city as we knew it. And on the other hand, you can start seeing it differently. You can start seeing that there is something actually very interesting in there. Who produced those spaces? Who? I mean, was there any particular artist or architect involved? The interesting about architecture is that this distinction between building and architecture actually only apparently only 3% of the whole of the United States involved an architect. The rest is built by anybody else. You don't need a signature or anything, right? And so that is very interesting because this distinction between building and architecture is in the end an ideological question posed by the architects, which consider that what they are about to say about the public space is by definition superior, more creative, more interesting. I find a lot of spaces done by developers and by ordinary people quite extraordinary and quite surprising and not at all expected. But I found a lot of what architects do horrific.
Yo creo que la arquitectura nos provee de un modelo de relación interesante, que es, bueno, el caso americano y europeo es bastante diferente en relación a la presencia de los arquitectos, pero a un arquitecto se le pide una cosa muy particular. Hay un cliente con unos deseos muy particulares cuando, o sea, creo que este tipo de relación no sirve para explicar o hablar de los artistas.
Yo creo que sí que sirve. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo podemos decir que el arquitecto es realmente el autor de un edificio? La arquitectura es una obra muy compleja que realmente envuelve muchísimas personas. La razón por la que a un cierto punto se decidió o se asumió que el autor de un edificio con la cantidad de gente y de cosas que están envueltas en este proceso es la firma del arquitecto es casi tan irrelevante como cuando se decidió que la autoridad de un film va para el director, cuando hay un montón de personas están envueltas en este proceso. No, luego, I want to say, I guess, is that in the end it provides a nice and interesting model of that question. Why is the artist an isolated individual? Why is it assumed also that the artist is again playing in the most conservative ways into this figure of the genius? In many ways, I very much like your project precisely because it seems to involve everybody, right? The homeless in the homeless vehicle and the immigrants and the other project. Who is doing what in the end? Obviously, the city is organized so that you get...
I still take responsibility.
You take responsibility. Yeah.
For I must. But it is true that at one point, this project can be taken over by the other people who construct the city. Because who is constructing the city? In this Baton de Tanger, the alien stuff is now being continued in Stockholm with the help of the Institute of Psychotherapy and Communication, which is a group, institution who works with immigrants, who works with their process of adaptation and displacement, and helps them to recognize the depth of all of the dimensions of their displacement. So I consider those as very important engineers of urban life, those psychologists.
Have you considered letting this design work go into, you know, out of your hands, like in the...
This is a difficult question by principle. I cannot say by principle, yes, because any object to which wheels are attached must be taken with great caution. You cannot give to somebody an
object with wheels without thinking about what will happen if you don't provide maintenance or if there is no network or workshops that can secure, if there are not enough of vehicles to secure the organization can protect itself. With the alien stuff, it's a different situation. Practically speaking, two of them belong to the immigrants because they somehow they always go back to their apartments. Jadwiga Przybylak doesn't want to give it back because initially she didn't want to be part of the project, but because she resented it. But now she is addicted to it, which is another perhaps problem. It's very difficult to say exactly, but I would not mind if the ideas that I propose, the way of dealing with the problematics, could be taken by other people and become part of the work.
Yeah, likewise, maybe here with Marshall and us.
Yeah. See?
El espacio público no coincide, no es exactamente el espacio físico urbano. El espacio público es, yo creo que Rodrigo también ha tocado este punto, no coincide exactamente con el espacio físico de la ciudad. Esto es muy importante. Es un espacio social, es un espacio que está construido por prácticas sociales. Entonces, si los planes de la ciudad se construyen a partir de planos, esto es cierto, pero eso no es solamente el espacio público. El espacio público es una cosa mucho más compleja, que está determinada precisamente por estas actividades sociales en las que todos, de alguna manera, participamos. Por supuesto, la cuestión más importante para mí es la cuestión que he puesto Cristo, que es la cuestión de que este espacio público siempre excluye, por definición. La construcción de este espacio público lleva consigo una violencia, ¿no? Pues estas exclusiones de los diferentes marginados. Estos marginados no son precisamente los artistas.
¿Hay preguntas?
Hay una pregunta muy concreta aquí. Respecto a el bastón de Miguel, yo creo que hay una metáfora muy evidente que este pasar, este báculo y la palabra al otro. Esto, por un lado, hay este aspecto. Por otro lado, la idea de coloquio y de conversación y de situación que en el espacio urbano se puede dar más, hay ciertas zonas. Pero hay una cosa que es una pregunta concreta, es que ¿cómo sitúas el media como portavoz de autoridad en esta situación? Porque la imagen es que la gente está escuchando a la palabra, no en directo, sino está escuchando la palabra a través del televisor y a través, o sea, parece que es como darle una predominancia al media en esta situación, que funciona como metáfora nuestro foco de atención. Es que tenemos que escuchar a la persona, tenemos que escuchar a la persona a través de media como representación.
To listen to both at the same time. The idea is that the project creates on this kind of first impression is that it's total mass, that nothing makes sense. Everything is doubled. Everything is interrupting everything else. There is pre-recorded, well-edited, painfully edited material of displacement that is broadcasted through this little monitor. Yet it operates only as a tick for the performer, for the operator, who is in fact saying, no, don't listen to this. It was in fact very different. And maybe you also have something else to say. So between this and evidence, specimens of the history in containers, there is enormous amount of dialogue. So in fact, the issue here is to create a kind of sacred space around the sacred object. The space that is has a center, temporary, idiotically in fact, created a center, because there's no center. Mm-hmm. It's an artifice, strange center. And this center becomes a point, magnetic point, through which everyone speaks to everyone. Through this presence of this staff, the dialogue becomes possible. But the dialogue is not based on creating, constructing statements, but in many ways undoing and opening up all of those unclear things. This is my hope, and may perhaps utopia of this project.
You said a tool.
Yes. Container, opening, provocative opening, psychotherapeutical, you know, companion, many different functions. But unfortunately, it has to be shaped somehow. So I have to admit that I don't like its shape. But I had no choice but adopt some kind of cliche of eternal or biblical object. I thought it was necessary, at least for at that time. Right. Now I'm working on some different projects.
The question
to
you, the idea of temporality and permanence,
yes.
How do you see that in relationship with architecture?
Well, architecture is unfortunately more permanent, well, it's more permanent. It's probably part of the problem that it has today, it has to do with that. Reality that is so much out of sync with everything else, takes so long to build a building, it takes so long once it is built. After the war, after both wars, they became very interested, architects became very interested in the idea of more than semi-permanent buildings, especially the recycling of all the military technology in the U.S. like the Corbusier and all these. Modern architects thought about these mass-produced houses that could be moved, that could be dismounted, that could be organized in different ways. The same question emerged again right after World War II in the United States and in the end. It's all these kinds of solid buildings. In terms of public space, about two things. For once, I started going in my mind through all these houses, and it's interesting that the most iconic houses of the modern movement tend to be houses that they were not really very permanent. They were houses for parties or secondary residents or pavilions for the, you know, think about the Barcelona pavilion. So the icons of modern architecture are all made of this space to be a permanent so it doesn't exist any longer. So
she said contradiction, the Corbusier, the pavilion becomes permanent.
Yeah, I think it's a very model for that building. It's not really, it's not really the same. It will never be the same. It's a replica. It's something else. But in terms of public space, also it's interesting in terms of all these provisional, semi-permanent spaces which is very much part of this century. Again, the places where artists have been able to do something, it turned out to be for fairs, for fair of the year, for the Olympics, and going back in history, for the fair of the 1929, for the previous one, for the fair of 1964 in New York, for the, you know, all this, somehow intersection of the Heyman architecture and this concept
of virtual environment.
I think this is actually an extension of that reality. I've become very interested recently on the 1964 fair in New York. It's fascinating because it's the first time in relation, for example, to the previous one of 1939, in which they no longer can represent this reality of the city as, you know, as a thing. In 1939, there is still this modern model of glass and steel skyscrapers, and you look down into other space and it's that. And in the 1964, they can no longer think about that other space. It's all a simulation of different spaces. So you have the Coca-Cola Pavilion, for example, takes you through the simulation of different countries and different other companies produce this. So all computers and all simulation. And I think that is the predecessor of that.
Universal exhibition.
Yeah.
¿Hay alguna?
You must have your own image, your own answer somehow.
Right.
Maybe, is it apocalyptic? Or you have some hope, a vision, a positive vision behind this situation of digital communication versus the division between third and first world. Maybe you could qualify a little bit your questions.
Exactly that, with the project that is reflecting the reality that exists, not doesn't want to project anything for the future or anything that is not already there, right? So I think it's interesting not to see this project as a model. go forward, but as a model, as a reflection on what is happening. What interests me about this project is the way in which he somehow points to the fact also that in the electronic age, the public is in fact a composite of private, whether it is the millions of people that are watching the soccer games on television throughout the world, or, well, perhaps these people inside airplanes sitting down on the railway, all of them with their different fantasies of what is actually happening. But I agree with Christopher that in the end it depends how you relate to that, what it says for you. For example, when you were saying the question of the third world and third world, I was thinking about another form of exclusion from this public space that in a way is parallel to that of another historical time, which is those who do not have access to the means of communication. So is that economic exclusion because we create this new kind of excluded from the public space that is different from the slave or the women or the immigrant or the times, even if this coexists?
So, but there is a hypothetical, there is a possibility, assuming that political